Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour Fidèle au poste, votre émission de début d'après-midi sur Radio Judaïka. Une demi-heure consacrée à la culture et à la pop culture, faite d'extraits de films, de musiques bizarres, mais aussi d'interviews et de rencontres. Aujourd'hui, dans le temps des archives, nous retrouverons Louis de Funès au moment du tournage de Rabbi Jacob. Puis nous nous intéresserons à ce document historique dont les conséquences furent dramatiques, les protocoles des sages de Sion. Mais tout ça, c'est sans compter la musique, et commençons avec ce petit générique d'arabesque.
Des archives.
Dans le coin des archives, on va farfouiller dans la discothèque. Aujourd'hui, un son gardé précieusement par Lina. Louis de Funès, mais pas l'acteur populaire foufou du cinéma, mais un véritable talent incomparable au théâtre.
Louis de Funès réussit actuellement un étonnant doublé. À la Comédie des Champs-Élysées d'abord, il joue la valse des Toréadors, une pièce de Jean Anouilh.
Je repose toutes les deux, je leur ai donné une bonne dose de Gardénal. L'ennui, c'est qu'elles finiront par se réveiller.
On était si calmes. C'est extraordinaire. Voilà une heure qu'on n'entend plus rien. J'en arrivais presque à réunir quelques idées. Mon cher, la médecine devrait trouver un moyen pour faire dormir éternellement les femmes. On les réveillerait un petit moment la nuit, puis elles s'endormiraient.
Ah, général, si c'était possible.
Quel est votre personnage dans la valse des Toréadors?
C'est le rôle d'un général. Vous savez, moi je ne raconte pas bien, Anu, il raconte mieux que moi. C'est le rôle d'un général qui a un grand amour de sa vie, qui est Mademoiselle de Saint-Aubert.
Étrange enchantement. mouvement, de cette première valse, Léon.
La valse des toréadors. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, la l'air.
Tra-da-da-da, la-da-da-da, la-da.
Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette valse?
Vous restez amoureux, mais est-ce toujours que votre amour vous sera fidèle?
Oui, bien sûr, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle, mais enfin, jusqu'à un moment-là, je ne vais pas vous raconter la suite.
Et la générale, comment réagit-elle?
Oh, on a un acte qui est le quatrième acte où ça barde.
Oh, pourquoi ne me mortifie plus partout comme un jeune chien?
Foutre, madame, les jeunes chiens vieillissent en 20 ans, j'ai plus de dents.
Tu en as, vieux tartuffe! Tu en as pour d'autres!
Il est autoritaire, de toute manière, il est autoritaire. Puis moi, je ne peux pas faire de rôle autrement, je crois.
Oh, ben...
Mais c'est comme le qu'est-ce que vous faites là, mon garçon?
Qu'est-ce que vous faites là?
Mon général, mademoiselle délire! Elle n'a plus sa connaissance!
C'est ça comme le je m'en doute, mais vous!
Elle m'est tombée sur la tête, mon général, elle est morte de les embrasser!
Mais vite, tenir tout le monde est donc fou ici ce matin! Je ne comprends rien à ce que vous me racontez!
Gisplaine, que vous? Que vous êtes arrivé?
Mon vrai métier était le théâtre avant. Je parle de théâtre, je suis arrivé au cinéma. Mais c'est là qu'il y a le public, c'est là qu'on joue avec le public. C'est le plus difficile, que le cinéma. Le cinéma, il y a des journées qui sont dures, très dures, mais ça n'est pas difficile, on peut recommencer au théâtre, il n'y a rien à faire.
Si, seuls, les Parisiens de Paris ou de passage peuvent rire aux aventures du général Saint-Pé, toute la France, en revanche, peut rire aux aventures de Rabbi Jacob, le dernier film de Gérard Houry.
C'est très intéressant de se servir du véhicule comique, et c'est principalement là que ma collaboration très intime avec Louis de Funès est fructueuse. C'est que Louis de Funès est un extraordinaire interprète comique, c'est-à-dire que c'est peut-être le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique.
Mon personnage, c'est Monsieur Pivert, le personnage qu'a inventé Gérard Houry et sa fille, c'est Daniel Thompson, c'est un bonhomme horrible.
Vite en Pivert, comme l'oiseau.
Il est anti-tout, il vend tout, depuis anti-français, anti-voiture, anti-souverain, et puis après anti-juif, anti-arabe, il est anti-noir, il y a tout, il est anti-tout. Il râle contre tout, il est belge, il ne peut pas les voir, personne. Et ben, c'est n'importe quoi. Oui.
Je ne suis pas juif.
Vous, monsieur le rabbin?
Notre propos n'est pas de Funès et moi de faire la politique, c'est pas ça.
Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas, voilà.
Nous ne sommes pas des gens qui véhiculons, qui envoyons des messages.
C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle.
Néanmoins, il y a derrière les gags, derrière l'humour, derrière le comique fantastique de Louis, il y a quelque chose qui, je l'espère, va passer à cet égard et qui touchera peut-être les cœurs des hommes.
Moi aussi, je marie ma fille.
Félicitations.
C'est pas ma fille. La mariée, elle est noire, elle est noire. Et moi, regardez comment je fais.
Il m'arrive un tas de choses, voilà.
Quelle impression.
Et finalement, je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti... Il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Houry, ça m'a décrassé l'âme.
C'est pas moi. Ah. Non, 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 non. Pas la moustache, pas la moustache, non, arrête.
La couverte, c'est toi! Rabbi Jacob.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Un jour, un podcast.
Dans Un jour, un podcast, on vous fait découvrir la planète podcast et ses trésors. Depuis quelque temps, nous nous intéressons à Nota Bene, un podcast historique animé par Benjamin Briot. Une production qui cherche à montrer que l'histoire est partout, tout le temps, qu'elle peut être ludique, même si elle est sérieuse. Alors, aujourd'hui, vous saurez tout sur le protocole des sages de Sion.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Parfois, le travail d'un historien peut sembler sans fin, voire sans issue. Et tout ça parce que semer une idée fausse, même brièvement, dans le cours de l'histoire, et il en restera toujours quelque chose. Un des exemples les plus connus de ce phénomène, ce sont les protocoles des sages de Sion. Un tout petit livre, mais qui a eu une telle influence dans le monde qu'il constitue la matrice du complotisme moderne. Mais ça, sans Néo et le lapin blanc. Ces protocoles, c'est une histoire à peine croyable et pourtant tout à fait exacte. De France en Russie, de Suisse à Constantinople, elle est ponctuée de rebondissements et de révélations que je vous propose de découvrir aujourd'hui, depuis les origines jusqu'à nos jours. Avec une question essentielle au cœur de cet épisode. Comment une idée circule à travers le temps? Comment est-ce qu'un ouvrage qui a été reconnu très vite comme un faux grossier a-t-il pu continuer à circuler, à être traduit et réédité jusque dans le monde entier? Eh bien, tout commence à l'époque du Second Empire, dans la France de Napoléon III. Maurice Joly, un avocat rebelle dans l'âme, s'insurge contre le caractère autoritaire du régime de Napoléon III, notoirement connu pour son contrôle de la presse. Après un premier pamphlet intitulé « César », il publie en 1864 son ouvrage le plus connu, « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Le livre met en scène une discussion politique imaginaire entre les deux philosophes. Le Florentin Machiavel défend cyniquement l'idée que la fin justifie les moyens, tandis que Montesquieu, le penseur des Lumières, considère qu'un bon prince ne peut tromper son peuple sans que ce dernier ne finisse par se révolter. Sans aller très loin dans l'analyse, on comprend très vite que le Machiavel en question, c'est Napoléon III qui est clairement montré du doigt par Maurice Joly. Mais le gars, il est pas fou, il préfère publier l'ouvrage sous pseudonyme depuis la Belgique pour éviter la censure. Le pamphlet circule ensuite sous le manteau en France et il est parfois vendu par son auteur. Une idée loin d'être lumineuse, car cela aide beaucoup la police à l'identifier. Il est finalement condamné par le tribunal correctionnel de la Seine à 15 mois de prison. La chute de l'Empire, en 1870, et la proclamation de la République devraient arranger ses affaires. Mais ça n'est pas le cas. Son caractère difficile le fâche avec ses amis républicains et il comprend vite qu'il n'aura pas les responsabilités et la gloire qu'il espère. Il meurt en 1878, dans des circonstances étranges, probablement par suicide sans que cela soit totalement assuré. Alors on pourrait se dire, c'est bon, l'histoire s'arrête là. Mais le problème, c'est que si les paroles passent, les écrits, eux, reste. Et le petit livre de Joly, longtemps oublié par tout le monde, a encore une nouvelle vie surprenante qui l'attend. Voyageons 30 ans plus tard, bien loin de Paris, au cœur de la Russie impériale. À la fin du 19e siècle, chacun cherche à imposer ses vues auprès de l'influençable tsar Nicolas II. Les libéraux semblent les plus écoutés et ils l'incitent à industrialiser et à moderniser le pays. Face à eux, les conservateurs s'inquiètent de ces changements et de ces risques de révolution qui en découlent. Se sentant comme les gardiens de la chrétienté orthodoxe, certains s'inquiètent aussi de la présence auprès du tsar de juifs que l'on associe alors aux modernisateurs. Accuser les juifs est facile, car l'antisémitisme est très fort en Russie à l'époque. Les pogroms sont nombreux et permettent de canaliser la colère populaire et la détourner du pouvoir. Ce rejet des juifs est un phénomène important en Europe. Au même moment, par exemple, l'affaire Dreyfus déchire la France. En fait, face à toutes les tensions sociales et les problèmes économiques, beaucoup voient dans les juifs les coupables faciles. Mais il manque aux conservateurs russes un texte permettant d'ouvrir les yeux de Nicolas II et de le faire revenir à de meilleures dispositions, c'est-à-dire débarquer les libéraux et freiner l'évolution du pays.
Et quoi de mieux qu'un livre expliquant par un complot juif la révolte montante en Russie? Les conditions de rédaction de ce livre ne sont pas clairement établies.
Une hypothèse rapporte que Pierre Ratchovski, le chef de la section étrangère de l'Okhrana, la police secrète du tsar, vit à Paris depuis le milieu des années 1880. Il se serait adressé à un jeune russe nommé Mathieu Golovinsky, parfaitement bilingue, pour réaliser un travail de faussaire. Cette French Connection s'intéresse particulièrement à l'ouvrage de Maurice Joly, une dénonciation politique de Napoléon III facile à plagier et à transformer en complot juif. Golovinsky aurait conservé toutes les parties les plus cyniques exprimées par Machiavel pour faire croire à un discours de domination mondiale.
Fréquentant les milieux antisémites parisiens, il aurait réalisé cette adaptation entre 1899 et 1901. Et Ratchovski, très content du résultat, l'aurait ensuite ramené en Russie. Actuellement, cette origine parisienne, pourtant longtemps admise, elle est assez remise en cause. Les circonstances de rédaction sont plutôt floues, mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, on aboutit bien à un plagiat grossier du livre de Maurice Joly. L'ouvrage paraît pour la première fois en Russie en 1903. D'abord dans une version abrégée, sous forme de feuilleton dans un quotidien d'extrême droite, sous le titre « Programme de la conquête du monde par les Juifs ». Puis, il apparaît sous sa version complète en 1905 par Serge Nilus, un moine mystique à la Raspoutine. Et en 1906, sous une autre version de Georgi Boutmy, un officier nationaliste et antisémite. Le titre définitif est enfin choisi, « Les protocoles des sages de Sion ». Ce petit livre d'une centaine de pages, découpé en 22 ou 27 chapitres selon les éditions, prétend être un compte-rendu de conférences prononcées par un chef d'une prétendue société juive secrète, les Sages de Sion, en marge du Congrès sioniste de Bâle de 1897 ou à l'Alliance israélite universelle à Paris. L'idée globale du texte, c'est de montrer que le peuple juif, qui est comploteur par essence, cherche à dominer le monde à l'aide d'un plan cynique et tentaculaire. En gros, manipuler l'économie, contrôler les médias, encourager tout type de révolte et de conflits religieux. Et flûte alors, les comploteurs ont eu l'idée du siècle. Ils ont pris la peine de dévoiler par écrit tous leurs chouettes projets secrets. Oh, comme c'est bête! Pour bien pimenter la chose, on a ajouté au livre de Maurice Joly des passages d'autres publications antérieures, comme le discours du grand rabbin au cimetière de Prague de Hermann Gotsch, un écrivain prussien antisémite. Rapidement, on ajoute aussi des allusions aux francs-maçons, histoire de suggérer une collusion entre eux et les juifs. La nouveauté et la force des protocoles des sages de Sion est donc de proposer une réflexion globale et un discours qui se veut cohérent. Ils prétendent ainsi dévoiler toute la vérité sur les activités secrètes et les intentions des juifs partout dans le monde, à savoir détruire la civilisation chrétienne et parvenir au pouvoir. Le tout enrobé dans un ramassis de clichés antisémites comme le culte de l'or ou l'ennemi intérieur. Il faut rendre à César ce qui est à César. Dans un premier temps, le tsar Nicolas II, la vraie cible du bouquin, se laisse convaincre et renvoie même ses ministres les plus libéraux. Mais bien vite, il fait examiner l'ouvrage par ses services, qui concluent que c'est un faux grossier. Encore une fois, on respire, ça devrait être toute la fin de cette affaire. Mais pas du tout. La diffusion de l'ouvrage est même accélérée par la révolution russe de 1917. Karl Marx étant juif, comme certains des bolcheviks, cette révolution n'est-elle pas la réalisation du complot annoncé dans le livre? Voilà comment se forge un mythe appelé à connaître par la suite une grande popularité. Le judéo-bolchevisme. Tous les émigrés russes qui fuient le nouveau pouvoir emportent dans leur bagage les protocoles des sages de Sion, qu'ils diffusent largement hors de la Russie afin d'avertir le monde de la menace. Ils en distribuent ainsi des versions dactylographiées aux négociateurs du traité de Versailles de 1919. Et en 1920, un article du prestigieux quotidien britannique The Times s'inquiète des informations qu'il dévoile dans son éditorial. Il titre « Le péril juif, un pamphlet dérangeant ».
Un complot mondial. Rendez-vous compte, il faut absolument en informer tous les lecteurs. Mais vous moquez pas trop vite des Anglais, parce que on n'a pas vraiment fait mieux chez nous. On peut citer par exemple le Petit Parisien de la même année.
Le bolchevisme est une des formes de caractère russe exprimée et appliquée par l'intelligence judaïque. Avec l'arrivée au pouvoir de quelques-uns d'entre eux, Israël a tout gagné. Le rêve confus de ces vieux prophètes se réalise. Difficile de ne pas lire dans ces lignes l'influence des protocoles des sages de Sion. Beaucoup se laissent convaincre, y compris des gens qui ne sont pas extrémistes. Ainsi, Winston Churchill publie le 8 février 1920 un article dans le Sunday Herald intitulé « Sionisme contre bolchevisme ». Il y dénonce la menace d'un État communiste à l'échelle mondiale sous domination juive.
Paradoxalement, alors que l'idée du judéo-bolchevisme a de plus en plus de succès, le mythe du capitalisme mondial juif, lui, perdure. Alors là, va falloir prendre une décision, parce que vraiment, c'est le complot juif, il est communiste ou capitaliste. Faut se mettre d'accord.
Les protocoles des sages de Sion ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Sa diffusion ne provoque pas beaucoup de réactions. Seule la presse juive le qualifie de pot pourri d'imbécilité maligne. Pour beaucoup de lecteurs, le livre donne simplement une clé de lecture facile pour comprendre tous les troubles mondiaux. Un complot, prévu de longue date, par des tenants d'une autre religion, leur but, le pouvoir. Et en dévoilant leur plan, le livre permet de le déjouer.
L'ouvrage s'arrache donc à l'extrême droite, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les rééditions s'enchaînent, avec des couvertures reprenant l'iconographie classique du complot, la pieuvre ou l'araignée, et celle de l'antisémitisme, avec un juif immense aux doigts crochus recourbés sur le monde. Le tout additionné de symboles maçonniques et de motifs ésotériques plus ou moins farfelus, histoire de faire peur. Encore une fois, ce gros mytho reçoit un gros stop en 1921 quand le Times se rétracte et publie un article rectificatif qui va s'appeler « La fin des protocoles » et qui va expliquer que c'est un faux et un plagiat. Mais les protocoles sont comme une sorte d'hydre mythologique, hein, dès qu'une tête est tranchée, une nouvelle repousse. Analyse, preuve, réfutation et interdiction ne font qu'accélérer la diffusion de l'ouvrage. Dès 1919, Dietrich Eckart et Alfred Rosenberg font découvrir sa traduction à Hitler. Et en 1921, le chef du parti nazi en cite des extraits dans des tracts du NSDAP. Il y fait même référence dans Mein Kampf quand il écrit, je cite, « Les protocoles des sages de Sion, que les juifs renient officiellement avec une telle violence, ont montré d'une façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. « Ce sont des faux !» répète en gémissant la Gazette de Francfort. Et elle cherche à en persuader l'univers. C'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Ils exposent clairement et en connaissance de cause ce que beaucoup de juifs peuvent exécuter inconsciemment. On le voit, que ce soit un faux ou pas n'a plus vraiment d'importance pour les gens de l'époque. Ce qui compte, hein, c'est le complot. Ce qu'il faut, c'est résister. Les traductions se multiplient dans les années 20 avec des éditions en italien, en grec, en espagnol, en portugais et en hongrois. Aux États-Unis, c'est le constructeur automobile Henry Ford, un antisémite notoire, qui contribue beaucoup à faire connaître l'ouvrage. Propriétaire d'un petit journal, le Dearborn Independent, il y fait paraître un feuilleton, le Juif International, largement composé d'extraits des protocoles. En 1922, ceux-ci ont déjà été vendus à 500 000 d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis, et traduits en 16 langues. Parfois, les éditions l'adaptent aux situations locales. C'est le cas de l'édition argentine de 1930 qui explique que le complot juif vise à établir un État juif dans le pays. En Suisse, des associations israélites portent plainte contre les nazis locaux. Un procès s'étend alors de 1933 à 1937. Le juge affirme publiquement que ce livre est un faux, un plagiat, une stupidité ridicule, et condamne plusieurs responsables de journaux ou de partis politiques à des peines plutôt légères. Et aucune des réfutations que l'on vient de citer, qu'elles soient historiques, politiques, médiatiques ou juridiques, n'a d'impact. Partout, l'idée fausse qui est contenue dans les protocoles continue de se répandre, même après la défaite des nazis en 1945. Décidément, plutôt tenace, hein. En Europe, les protocoles continuent de circuler ça et là dans les milieux antisémites d'extrême droite et suprémacistes blancs. Mais ils vont surtout trouver de nouveaux terrains de jeu. Le livre connaît un renouveau dans le monde arabe où les éditions se multiplient après la création d'Israël en 1948. Les protocoles permettent en effet de justifier les défaites de leurs armées contre Israël. Elles ne pouvaient rien faire face à un complot mondial. Progressivement, ce livre est adopté par le monde musulman comme un élément de compréhension du monde et une dénonciation de la politique israélienne. Comme en 1987, dans la charte du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui cite les protocoles pour expliquer le plan sioniste auquel il entend s'opposer. Même les dirigeants arabes laïcs n'échappent pas à cette influence. En septembre 1958, le président égyptien Gamal Abdel Nasser conseille ainsi la lecture des protocoles à un journaliste en lui indiquant que 300 sionistes dominent le continent européen. De nos jours, l'Arabie Saoudite considère encore officiellement les protocoles des sages de Sion comme un document authentique, voyant dans les événements du XXe siècle une confirmation des faits annoncés dans l'ouvrage. Et bien sûr, comme à chaque fois dans ces cas-là, l'actualité permet toujours de remettre régulièrement une pièce dans la machine. Un passage des protocoles indique en effet que les Juifs, pour asseoir leur domination, comptent diffuser des maladies. Des complotistes ont ainsi vu dans la crise mondiale du Covid-19 l'application du projet secret. En guise de preuve, il souligne la judaïté de tel patron d'industrie pharmaceutique ou de tel ministre de la Santé. Bref, la figure du bouc émissaire semble avoir encore de tristes jours devant elle, et ce qui est fou, c'est que la falsification d'origine, à partir de Maurice Joly, eh ben, elle est plutôt connue. Des liens et ouvrages sont indiqués en description, et c'est limpide. Et tout ça n'empêche pas que de la Russie, la tache d'huile s'est étendue sur toute l'Europe, dans l'Occident, au monde arabe, et finalement à Internet, donc à toute la planète. Les protocoles des sages de Sion continuent, contre vents et marées, à circuler, à faire parler de lui, à interroger les gens. Alors, pour répondre aux questions, une fois pour toutes, C'est juste un gros fake. Un gros fake du XXe siècle, russe, débunké par les services du tsar moins de 10 ans après sa parution, il y a un siècle. Voilà, au moins comme réponse, c'est plutôt clair.
Pour le Ku Klux Klan, Zelig, un juif capable de se transformer en nègre ou en indien, constitue une triple menace.
Fidèle au poste, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez écouter cette émission et toutes les précédentes en allant sur la page podcast du site de la radio. Vous y trouverez d'ailleurs beaucoup d'autres choses passionnantes. Rendez-vous demain 14h. D'ici là, passez un bon après-midi en notre compagnie.